Chapitre 15. Cette vie fut affreuse, mais je la supportais. Les tortures de la jalousie m'étaient encore inconnues jusque-là. Elles s'éveillèrent et je les épuisais toutes. J'évitais à Léonie l'ennui de les combattre. D'ailleurs, il ne me restait plus assez de force pour les exprimer. Je résolus de me laisser mourir en silence. Je me sentais assez malade pour l'espérer. L'ennui me dévorait encore plus à Milan qu'à Venise. J'y avais plus de souffrance et moins de distraction. Léonie vivait ouvertement avec la princesse Zagarolo. Il passait les soirées dans sa loge, au spectacle ou au bal avec elle. Il s'en échappait pour venir me voir un instant, et puis il retournait souper avec elle, et ne rentrait que le matin à 6 heures. Il se couchait, accablé de fatigue et souvent de mauvaise humeur. Il se levait à midi, silencieux et distrait, et allait se promener en voiture avec sa maîtresse. Je les voyais souvent passer. Léonie avait auprès d'elle cet air sagement triomphant, cette coquetterie de maintien, ces regards heureux et tendres qu'il avait eu jadis auprès de moi. Maintenant, je n'avais plus que ses plaintes et le récit de ses contrariétés. Il est vrai que j'aimais mieux le voir venir à moi, soucieux et dégoûté de son esclavage, que paisible et insouciant, comme cela lui arrivait quelquefois. Il semblait alors qu'il eût oublié l'amour qu'il avait eu pour moi et celui que j'avais encore pour lui. Il trouvait naturel de me confier les détails de son intimité avec une autre, et ne s'apercevait pas que le sourire de mon visage en l'écoutant était une convulsion muette de la douleur. Un soir, au coucher du soleil, je sortais de la cathédrale où j'avais prié Dieu avec ferveur de m'appeler à lui et d'accepter mes souffrances en expiation de mes fautes. Je marchais lentement sous le magnifique portail et je m'appuyais de temps en temps contre les piliers car j'étais faible. Une fièvre lente me consumait. L'émotion de la prière et l'air de l'église m'avaient baigné d'une sueur froide. Je ressemblais à un spectre sorti du pavé sépulcral pour voir encore une fois les derniers rayons du jour. Un homme, qui me suivait depuis quelque temps sans que j'y fisse grande attention, me parla, et je me retournai sans surprise, sans frayeur avec l'apathie d'un mourant. Je reconnus Henriette. Aussitôt, le souvenir de ma patrie et de ma famille se réveilla en moi avec impétuosité. J'oubliais l'étrange conduite de ce jeune homme envers moi, la puissance terrible qu'il exerçait sur Léonie, son ancien amour si mal accueilli par moi et la haine que j'avais ressentie contre lui depuis. Je ne songeais qu'à mon père et à ma mère, et lui tendant la main avec vivacité, je l'accablais de questions. Il ne se pressa pas de me répondre, quoiqu'il parût touché de mon émotion et de mon empressement. « Êtes-vous seul ici ?» me dit-il. « Et puis-je causer avec vous sans vous exposer à aucun danger ?»« Oui, je suis seul. Personne ici ne me connaît ni ne s'occupe de moi. Asseyons-nous sur ce banc de pierre, car je suis souffrante et pour l'amour du ciel, parlez-moi de mes parents. Il y a une année tout entière que je n'ai entendu prononcer leur nom. Vos parents, dit Henriette avec tristesse, ah, il y en a un qui ne vous pleure plus. Mon père est mort, m'écriai-je en me levant. Henriette ne répondit pas. Je retombai accablé sur le banc et je dis à demi-voix, « Mon Dieu, qui allait me réunir à lui, faites qu'il me pardonne. Votre mère, dit Henrietta, était longtemps malade. Elle a essayé ensuite de se distraire, mais elle avait perdu sa beauté dans les larmes et n'a point trouvé de consolation dans le monde. Mon père mort, dis-je en joignant mes faibles mains, ma mère vieille et triste, et ma tante. Oh, votre tante essaye de consoler votre mère en lui prouvant que vous ne méritez pas ses regrets. Mais votre mère ne l'écoute pas, et chaque jour, elle se flétrit dans l'isolement et l'ennui. Et vous, madame ? Henriette prononça ces derniers mots d'un ton froid, où perçait cependant la compassion sous le mépris. Oh, et moi, je me meurs, vous le voyez. Il me prit les mains, et des larmes lui vinrent aux yeux. Pauvre fille, me dit-il, ce n'est pas ma faute. J'ai fait ce que j'ai pu pour vous empêcher de tomber dans ce précipice, mais vous l'avez voulu. Ne parlez pas de cela, lui dis-je. Il m'est impossible d'en causer avec vous. Dites-moi si ma mère m'a fait chercher après ma fuite. Votre mère, oui, vous a cherché, mais pas assez. Pauvre femme, elle était consternée, elle a manqué de présence d'esprit. Il n'y a pas de vigueur, Juliette, dans le sang dont vous êtes formée. Ah, c'est vrai, lui dis-je nonchalamment. Nous étions tous indolents et pacifiques dans ma famille. Ma mère a-t-elle espéré que je reviendrais? Elle l'a espéré follement et puérilement. Elle vous attend encore et vous espérera jusqu'à son dernier soupir. Je me mis à sangloter. Henriette me laissa pleurer sans dire un mot. Je crois qu'il pleurait lui aussi. J'essuyai mes yeux pour lui demander si ma mère avait été bien affligée de mon déshonneur, si elle avait rougi de moi, si elle osait encore prononcer mon nom. Mais elle l'a sans cesse à la bouche, dit Henriette. Elle conte sa douleur à tout le monde. À présent, on est blasé sur cette histoire, et on sourit quand votre mère commence à pleurer, ou bien on l'évite en disant « Ah, voilà encore Madame Ruyter qui va nous raconter l'enlèvement de sa fille. » J'écoutais cela sans dépit, et levant les yeux sur lui, je lui dis « Et vous, Henriette, me méprisez-vous ?»« Bon, je ne vous aime ni ne vous estime plus, » me répondit-il, « mais je vous plains et je suis à votre service. Ma bourse est à votre disposition. Voulez-vous que j'écrive à votre mère ? Voulez-vous que je vous reconduise auprès d'elle ? Parlez, et ne craignez pas d'abuser de moi. Je n'agis pas par amitié, j'agis par devoir. Vous ne savez pas, Juliette, combien la vie s'adoucit pour tous ceux qui se font des lois et qui les observent. » Je ne répondis rien. Voulez-vous donc rester ici seul et abandonné ? Combien y a-t-il de temps que votre mari vous a quitté ? Il ne m'a point quitté, répondis-je. Nous vivons ensemble. Il s'oppose à mon départ que je projette depuis longtemps, mais auquel je n'ai plus la force de penser. Je retombai dans le silence. Il me donna le bras jusque chez moi. Je ne m'en aperçus qu'en arrivant. Je croyais être appuyé sur le bras de Léonie, et je travaillais à concentrer mes peines et à ne rien dire. Voulez-vous que je revienne demain, savoir vos intentions ? Me dit-il en me laissant sur le seuil. Oui, lui dis-je, sans penser qu'il pouvait rencontrer Léonie. À quelle heure ? demanda-t-il. Ou quand vous voudrez, lui répondis-je d'un air hébété. Il vint le lendemain, peu d'instants après que Léonie fut sortie. Je ne me souvenais plus de le lui avoir permis, et je me montrai si surprise de sa visite qu'il fut obligé de me le rappeler. Alors me revinrent à la mémoire quelques paroles que j'avais surprises entre Léonie et ses compagnons, mais dont le sens restait vague dans mon esprit, me semblait applicable à Henriette et renfermait une menace de mort. Je frémis en songeant à quel danger je l'exposais. « Sortons, lui dis-je avec effroi, vous n'êtes point en sûreté ici. » Il sourit et sa figure exprima un profond mépris pour ce danger que je redoutais. « Croyez-moi, dit-il en voyant que j'allais assister, l'homme dont vous parlez n'oserait lever le bras sur moi, puisqu'il n'ose pas seulement lever les yeux à la hauteur des miens. » Or, je ne pouvais entendre parler ainsi de Léonie. Malgré tous ses torts, toutes ses fautes, il était encore ce que j'avais de plus cher au monde. Je priais Henriette de ne point le traiter ainsi devant moi. Accablez-moi de mépris, lui dis-je. Reprochez-moi d'être une fille sans orgueil et sans cœur, d'avoir abandonné les meilleurs parents qui furent jamais et d'avoir foulé aux pieds toutes les lois qui me sont imposées à mon sexe, mais je ne me l'enfoncerai pas. Je vous écouterai en pleurant et je ne vous serai pas moins reconnaissante des offres de service que vous m'avez faites hier. Mais laissez-moi respecter le nom de Léonie. C'est le seul bien que, dans le secret de mon cœur, je puisse encore opposer à l'anathème du monde. « Respectez le nom de Léonie ?» s'écria Henriette avec un rire amer. « Pauvre femme, enfin, cependant j'y consentirai, si vous voulez partir pour Bruxelles. Allez consoler votre mère, rentrez dans la voie du devoir et je vous promets de laisser en paix le misérable qui vous a perdu et que je pourrai briser comme une paille. » « Retourner auprès de ma mère, » répondis-je. « Oh oui, mon cœur me le commande à chaque instant. Mais retourner à Bruxelles, mon orgueil me le défend. De quelle manière y serais-je traité par toutes ces femmes qui ont été jalouses de mon éclat et qui maintenant se réjouissent de mon abaissement ? « Je crains, Juliette, reprit-il, que ce ne soit pas votre meilleure raison. Votre mère a une maison de campagne, vous pourriez vivre avec elle, loin de la société impitoyable. Avec votre fortune, vous pourriez vivre partout ailleurs encore, où votre disgrâce ne serait pas connue, et où votre beauté, votre douceur vous feraient bientôt de nouveaux amis. Mais vous ne voulez pas quitter Léonie ? « Convenez-en. »« Je le veux, » lui répondis-je en pleurant, « mais je ne le peux pas. » »« Malheureuse, malheureuse entre toutes les femmes, » dit Henriette avec tristesse. « Vous êtes bonne et dévouée, mais vous manquez de fierté. » »« Là où il n'y a pas de noble orgueil, il n'y a pas de ressources. » Pauvre créature faible, je vous plains de toute mon âme, car vous avez profané votre cœur, vous l'avez souillé au contact d'un cœur infâme, vous avez courbé la tête sous une main vile, vous aimez un lâche. Je me demande comment j'ai pu vous aimer autrefois, mais je me demande aussi comment je pourrais à présent ne pas vous plaindre. « Mais enfin, lui dis-je effrayé et consterné de son air et de son langage, qu'a donc fait Léonie pour que vous vous croyiez le droit de le traiter ainsi ? Doutez-vous de ce droit, madame ? Voulez-vous me dire pourquoi Léonie qui est brave, oh, cela est incontestable, et qui est le premier tireur d'armes que je connaisse, ne s'est jamais avisé de me chercher querelle, à moi qui n'ai jamais touché une épée de ma vie, et qui l'ai chassé de Paris avec un mot, et de Bruxelles avec un regard. Et cela est inconcevable, dis-je avec accablement. Mais est-ce que vous ne savez pas de qui vous êtes la maîtresse ? Reprit Henriette avec force. Est-ce que personne ne vous a raconté les aventures merveilleuses du chevalier Léone ? Est-ce que vous n'avez jamais rougi d'avoir été sa complice et de vous être sauvé avec un escroc en pillant la boutique de votre père ? Je laissai échapper un cri douloureux et je cachai mon visage dans mes mains. Puis je relevai la tête en m'écriant de toutes mes forces. « Mais cela est faux. Je n'ai jamais fait une telle bassesse. Léonie n'en est pas plus capable que moi. Nous n'avions pas fait 40 lieues sur la route de Genève que Léonie s'est arrêtée au milieu de la nuit, a demandé un coffre et a mis tous les bijoux pour les renvoyer à mon père. Êtes-vous sûr qu'il l'ait fait ? Demanda Henriette en riant avec mépris. J'en suis sûr, m'écriai-je. J'ai vu le coffre, j'ai vu Léonie serrer les diamants. Et vous êtes sûr que le coffre ne vous a pas suivi tout le reste du voyage ? Vous êtes sûr qu'il n'a point été déballé à Venise ? Ces mots furent enfin pour moi un trait de lumière si éblouissant que je ne pus m'y soustraire. Je me rappelais tout à coup ce que j'avais cherché en vain à ressaisir dans mes souvenirs. La première circonstance où mes yeux avaient fait connaissance avec ce fatal coffret. En ce moment, les trois époques de son apparition me furent présentes et se lièrent logiquement entre elles pour me forcer à une conclusion écrasante. Premièrement, la nuit passée dans le château mystérieux où j'avais vu Léonie mettre les diamants dans ce coffre. En second lieu, la dernière nuit passée au chalet suisse où j'avais vu Léonie déterrer mystérieusement son trésor confié à la terre. Et troisièmement, la seconde journée de notre séjour à Venise où j'avais trouvé le coffre vide et l'épingle de diamant par terre dans un reste de coton d'emballage. La visite du juif Thaddée et les 500 000 francs que, d'après l'entretien surpris par moi entre Léonie et ses compagnons, il lui avait compté à notre arrivée à Venise, coïncidaient parfaitement avec le souvenir de cette matinée. Je me tordis les mains et les levant vers le ciel. Ainsi, m'écriai-je en me parlant à moi-même, tout est perdu, jusqu'à l'estime de ma mère, tout est empoisonné jusqu'au souvenir de la Suisse. Ces 6 mois d'amour et de bonheur étaient consacrés à receler un vol et à mettre en défaut les recherches de la justice, ajouta Henriette. Mais non, repris-je avec égarement, en le regardant comme pour l'interroger. Il m'aimait, il est sûr qu'il m'a aimé. Je ne peux pas songer à ce temps-là sans retrouver la certitude de son amour. C'était un voleur qui avait dérobé une fille et une cassette et qui aimait l'une et l'autre. Henriette haussa les épaules, je m'aperçus que je divaguais, et cherchant à ressaisir ma raison, je voulus absolument savoir la cause de cet ascendant inconcevable qu'il exerçait sur Léonie. Vous voulez le savoir, me dit-il. Il réfléchit un instant, puis il reprit. Je vous le dirai, je puis vous le dire. D'ailleurs, il est impossible que vous ayez vécu un an avec lui sans vous en douter. Il a dû faire assez de dupes à Venise sous vos yeux. Faire des dupes, mais lui comment? Oh, prenez garde à ce que vous dites, Henriette. Il est déjà assez chargé d'accusations. Je vous crois encore incapable d'être sa complice, Juliette, mais prenez garde à le devenir. Prenez garde à votre famille. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut être impunément la maîtresse d'un fripon. Vous me faites mourir de honte, monsieur. Vos paroles sont cruelles. Achevez donc votre ouvrage et déchirez tout à fait mon cœur en m'apprenant ce qui vous donne pour ainsi dire trois droits de vie et de mort sur Léonie. Où l'avez-vous connue? Que savez-vous de sa vie passée? Je n'en sais rien, moi, hélas. J'ai vu en lui tant de choses contradictoires que je ne sais plus s'il est riche ou pauvre, s'il est noble ou plébéien. Je ne sais même pas si le nom qu'il porte lui appartient. C'est la seule chose que le hasard, répondit Henriette, lui ait épargné la peine de voler. Il s'appelle en effet Léon et Léonie et sort d'une des plus nobles maisons de Venise. Son père avait encore quelques fortunes et possédait le palais que vous venez d'habiter. Il avait une tendresse illimitée pour ce fils unique, dont les précoces dispositions annonçaient une organisation supérieure. Léonie fut élevée avec soin, et dès l'âge de 15 ans, parcourut la moitié de l'Europe avec son gouverneur. En 5 ans, il apprit avec une incroyable facilité la langue, les mœurs et la littérature des peuples qu'il traversa. La mort de son père le ramena à Venise avec son gouverneur. Ce gouverneur était l'abbé Zanini, que vous avez pu voir souvent chez vous cet hiver. Je ne sais si vous l'avez bien jugé. C'est un homme d'une imagination vive, d'une finesse exquise, d'une instruction immense, mais d'une immoralité incroyable et d'une lâcheté certaine sous les dehors hypocrites de la tolérance et du bon sens. Il avait naturellement dépravé la conscience de son élève et avait remplacé en lui les notions du juste et de l'injuste par une prétendue science de la vie qui consistait à faire toutes les folies amusantes, toutes les fautes profitables, toutes les bonnes et les mauvaises actions qui pouvaient tenter le cœur humain. J'ai connu ce Zanini à Paris, et je me souviens de lui avoir entendu dire qu'il fallait savoir faire le mal pour savoir faire le bien, savoir jouir dans le vice pour savoir jouir dans la vertu. Cet homme, plus prudent, plus habile et plus froid que Léonie, lui est beaucoup supérieur dans sa science. Et Léonie, emportée par ses passions ou déroutée par ses caprices, ne le suit que de loin en faisant mille écarts qui doivent le perdre dans la société et qui l'ont déjà perdu, puisqu'il est désormais à la discrétion de quelques complices cupides et de quelques honnêtes gens dont il lassera la générosité. Un froid mortel glaçait mes membres, tandis qu'Henriette parlait ainsi. Je fis un effort pour écouter le reste. Chapitre 16. À 20 ans, reprit Henriette, Léonie se trouva donc à la tête d'une fortune assez honorable et entièrement maître de ses actions. Il était dans la plus facile position pour faire le bien, mais il trouva son patrimoine au-dessous de son ambition, et en attendant qu'il élevât une fortune égale à ses désirs, sur je ne sais quel projet insensé ou coupable, il dévora en 2 ans tout son héritage. Sa maison, qu'il fit décorer avec la richesse que vous avez vue, fut le rendez-vous de tous les jeunes gens dissipés et de toutes les femmes perdues de l'Italie. Beaucoup d'étrangers, amateurs de la vie élégante, y furent accueillis. Et c'est ainsi que Léonie, liée déjà par ses voyages avec beaucoup de gens comme il faut, établit dans tous les pays les relations les plus brillantes et s'assura les protections les plus utiles. Dans cette nombreuse société, durent s'introduire, comme il arrive partout, des intrigants et des escrocs. J'ai vu à Paris, autour de Léonie, plusieurs figures qui m'ont inspiré de la méfiance et que je soupçonne aujourd'hui d'avoir formé avec lui et le marquis de... une affiliation de filou de bonne compagnie. Cédant à leurs conseils, aux leçons de Zanini ou à ses dispositions naturelles, le jeune Léonie dut s'exercer à tricher au jeu. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il acquit ce talent à un degré éminent et qu'il l'a probablement mis en usage dans toutes les villes de l'Europe sans exciter la moindre défiance. Lorsqu'il fut absolument ruiné, il quitta Venise et se mit à voyager de nouveau en aventurier. Ici, le fil de son histoire m'échappe. Zanini, par qui j'ai su une partie de ce que je viens de vous raconter, prétendait l'avoir perdu de vue depuis ce moment et n'avoir appris que par une correspondance souvent interrompue les 1000 changements de fortune et les mille intrigues de Léonie dans le monde. Il s'excusait d'avoir formé un tel élève, en disant que Léonie avait pris à côté de sa doctrine. Mais il excusait l'élève en louant l'habileté incroyable, la force d'âme et la présence d'esprit avec laquelle il avait conjuré le sort, traversé et vaincu l'adversité. Enfin, Léonie vint à Paris avec son ami fidèle, le marquis de... que vous connaissez, et c'est là que j'eus l'occasion de le voir et de le juger. Ce fut Zanini qui le présenta chez la princesse de X, dont il élevait les enfants. La supériorité d'esprit de cet homme l'avait depuis plusieurs années établi dans la société de la princesse sur un pied moins subalterne que les gouverneurs ne le sont d'ordinaire dans les grandes maisons. Il faisait les honneurs du salon, tenait le haut de la conversation, chantait admirablement et dirigeait les concerts. Léonie, grâce à son esprit et à ses talents, fut accueillie avec empressement et bientôt recherchée avec enthousiasme. Il exerça à Paris, sur certaines coteries, l'empire que vous lui avez vu exercer sur toute une ville de province. Il s'y comportait magnifiquement, jouait rarement, mais toujours pour perdre des sommes immenses que gagnait généralement le marquis de... Ce marquis fut présenté peu de temps après lui par Zanini. Quoique compatriote de Léonie, il feignait de ne pas le connaître ou affectait d'avoir de l'éloignement pour lui. Il racontait à l'oreille de tout le monde qu'ils avaient été en rivalité d'amour à Venise et que, bien que guéris l'un et l'autre de leur passion, ils ne l'étaient point de leur inimitié. Grâce à cette fourberie, personne ne les soupçonnait d'être d'accord pour exercer leur industrie. Et ils l'exercèrent durant tout un hiver sans inspirer le moindre soupçon. Ils perdaient quelquefois immensément l'un et l'autre, mais plus souvent ils gagnaient et ils menaient chacun de son côté un train de prince. Un jour, un de mes amis, qui perdait énormément contre Léonie, surprit un signe imperceptible entre lui et le marquis vénitien. Il garda le silence et les observa tous les deux pendant plusieurs jours avec attention. Un soir, que nous avions parié du même côté et que nous perdions toujours, il s'approcha de moi et me dit « Regardez ces deux Italiens, j'ai la conviction et presque la certitude qu'ils s'entendent pour tricher. Je quitte demain Paris pour une affaire extrêmement pressée. Je vous laisse le soin d'approfondir ma découverte et d'en avertir vos amis s'il y a lieu. Vous êtes un homme sage et prudent. Vous n'agirez pas, j'espère, sans bien savoir ce que vous faites. En tout cas, si vous avez quelque affaire avec ces gens-là, ne manquez pas de me nommer à eux comme le premier qui les est accusé, et écrivez-moi, je me charge de vicier la querelle avec un des deux. » Il me laissa son adresse et partit. J'examinai les deux chevaliers d'industrie et j'acquis la certitude que mon ami ne s'était pas trompé. J'arrivai à l'entière découverte de leur mauvaise foi, précisément à une soirée chez la princesse de X. Je pris aussitôt Zanini par le bras et l'entraînant à l'écart. « Connaissez-vous bien, lui demandai-je, les deux Vénitiens que vous avez présentés ici ?»« Parfaitement, me répondit-il avec beaucoup d'aplomb. J'ai été le gouverneur de l'un, je suis l'ami de l'autre. » « Je vous en fais mon compliment, lui dis-je. Ce sont deux escrocs. » Je lui fis cette réponse avec tant d'assurance qu'il changea de visage malgré sa grande habitude de dissimulation. Je le soupçonnais d'avoir un intérêt dans leur gain et je lui déclarai que j'allais démasquer ses deux compatriotes. Il se troubla tout à fait et me supplia avec instance de ne pas le faire. Il essaya de me persuader que je me trompais. Je le priai de me conduire dans sa chambre avec le marquis. Là, je m'expliquai en peu de mots très clairs, et le marquis, au lieu de se disculper, pâlit et s'évanouit. Je ne sais si cette scène fut jouée par lui et l'abbé, mais ils me conjurèrent avec tant de douleur. Le marquis me marqua tant de honte et de remords que j'eus la bonhomie de me laisser fléchir. J'exigeais seulement qu'il quittât la France avec Léonie sur le champ. Le marquis promit tout, mais je voulus moi-même faire la même injonction à son complice. Je lui ordonnai de le faire monter. Il se fit longtemps attendre. Enfin, il arriva, non pas humble et tremblant comme l'autre, mais frémissant de rage et serrant les poings. Il pensait peut-être m'intimider par son insolence. Je lui répondis que j'étais prêt à lui donner toutes les satisfactions qu'il voudrait, mais que je commencerais par l'accuser publiquement. J'offris en même temps au marquis la réparation de mon ami aux mêmes conditions. L'impudence de Léonie fut déconcertée. Ses compagnons lui firent sentir qu'il était perdu s'il résistait. Il prit son parti, non sans beaucoup de résistance et de fureur, et tous deux quittèrent la maison sans reparaître au salon. Le marquis partit le lendemain pour Gênes, Léonie pour Bruxelles. J'étais resté seul avec Zanini dans sa chambre. Je lui fis comprendre les soupçons qu'il m'inspirait et le dessein que j'avais de le dénoncer à la princesse. Comme je n'avais point de preuves certaines contre lui, il fut moins humble et moins suppliant que le marquis, mais je vis qu'il n'était pas moins effrayé. Il mit en œuvre toutes les ressources de son esprit pour conquérir ma bienveillance et ma discrétion. Je lui fis avouer pourtant qu'il connaissait jusqu'à un certain point les turpitudes de son élève et je le forçais de me raconter son histoire. Non, ceci Zadini manqua de prudence. Il aurait dû soutenir obstinément qu'il les ignorait. Mais la dureté avec laquelle je le menaçais de dévoiler les hôtes qu'il avait introduits lui fit perdre la tête. Je le quittai avec la conviction qu'il était un drôle, aussi lâche mais plus circonspect que les deux autres. Je lui gardai le secret par prudence pour moi-même. Je craignais que l'ascendant qu'il avait sur la princesse X ne l'emportât sur ma loyauté, qu'il n'eût l'habileté de me faire passer auprès d'elle pour un imposteur ou pour un fou, et qu'il ne rendît ma conduite ridicule. J'étais las de cette sale aventure. Je n'y pensais plus et quittai Paris 3 mois après. Vous savez quelle fut la première personne que mes yeux cherchèrent dans le bal de Delpech. Oui, j'étais encore amoureux de vous, et, arrivé depuis 1 heure, j'ignorais que vous alliez vous marier. Je vous découvris au milieu de la foule, je m'approchai de vous et je vis Léonie à vos côtés. Je crus faire un rêve. Je crus qu'une ressemblance m'abusait. Je fis des questions et je m'assurai que votre fiancé était le chevalier d'industrie qui m'avait volé 300 ou 400 louis. Je n'espérais point le supplanter, je crois même que je ne le désirais pas. Succédez dans votre cœur à un pareil homme, essuyez peut-être sur vos joues la trace de ses baisers, était une pensée qui glaçait mon amour. Mais je jurais qu'une fille innocente et une honnête famille ne seraient pas dupes d'un misérable. Vous savez que notre explication ne fut ni longue ni verbeuse. Mais votre fatale passion fit échouer l'effort que je faisais pour vous sauver. Henriette se tut. Je baissai la tête. J'étais accablé. Il me semblait que je ne pourrais plus regarder personne en face. Henriette continua. Léonie se tira fort habilement d'affaire en enlevant sa fiancée sous mes yeux, c'est-à-dire le 1 000 000 de diamants qu'elle portait sur elle. Il vous cacha, vous et vos joyaux, je ne sais où. Au milieu des larmes répandues sur le sort de sa fille, votre père pleura un peu ses belles pierreries si bien montées. Un jour, il lui arriva de dire naïvement devant moi que ce qui lui faisait le plus de peine dans ce vol, c'est que les diamants seraient vendus à moitié prix à quelques juifs et que ces belles montures, si bien travaillées, seraient brisées et fondues par le receleur qui ne voudrait pas se compromettre. C'était bien la peine de faire un tel travail, disait-il en pleurant. C'était bien la peine d'avoir une fille et de tant l'aimer. Il paraît que votre père eut raison, car avec le produit de son rapt, Léonie ne trouva moyen de briller à Venise que 3 mois. Le palais de ses pères avait été vendu, et maintenant il était à louer. Il le loua et rétablit, dit-on, son nom sur la corniche de la cour intérieure, n'osant pas le mettre sur la porte principale. Comme il n'est décidément connu pour un filou que par très peu de personnes, sa maison fut de nouveau le rendez-vous de beaucoup d'hommes comme il faut, qui, sans doute, y furent dupés par ses associés. Mais peut-être la crainte qu'il avait d'être découvert l'empêcha-t-elle de se joindre à eux, car il fut bientôt ruiné de nouveau. Il se contenta sans doute de tolérer le brigandage que ces scélérats commettaient chez lui. Il est à leur merci et n'oserait se défaire de ce qu'il déteste le plus. Maintenant, il est, comme vous le savez, l'amant en titre de la princesse Zagarolo. Cette dame, qui a été fort belle, est désormais flétrie et condamnée à mourir prochainement d'une maladie de poitrine. On pense qu'elle léguera tous ses biens à Léonie, qui feint pour elle un amour violent, et qu'elle aime elle-même avec passion. Il guette l'heure de son testament. Alors vous redeviendrez riche, Juliette. Il a dû vous le dire. Encore un peu de patience, et vous remplacerez la princesse dans sa loge au spectacle. Vous irez à la promenade dans ses voitures, dont vous ferez seulement changer l'écusson. Vous serrerez votre amant dans vos bras sur le lit magnifique où elle sera morte. Vous pourrez même porter ses robes et ses diamants. Le cruel Henriette en dit peut-être davantage, mais je n'entendis plus rien. Je tombais à terre dans des convulsions terribles. Chapitre 17. Quand je revins à moi, je me trouvais seul avec Léonie. J'étais couché sur un sofa. Il me regardait avec tendresse et avec inquiétude. « Mon âme, me dit-il lorsqu'il me vit reprendre l'usage de mes sens, dis-moi ce que tu as. Pourquoi t'ai-je trouvé dans un état si effrayant? Où souffres-tu? Quelle nouvelle douleur as-tu éprouvée ?»« Aucune, lui répondis-je. Et je disais vrai, car en ce moment, je ne me souvenais plus de rien. « Tu te trompes, Juliette. Quelqu'un t'a fait de la peine. La servante qui était auprès de toi, quand je suis arrivé, m'a dit qu'un homme était venu le voir ce matin, qu'il était resté longtemps avec toi et qu'en sortant, il avait recommandé qu'on te portât des soins. « Quel est cet homme, Juliette ?» Je n'avais jamais menti de ma vie. Il me fut impossible de répondre. Je ne voulais pas nommer Henriette. Léonie fronça le sourcil. « Un mystère, dit-il, un mystère entre nous ? Oh, je ne t'en aurais jamais cru capable. Mais tu ne connais personne ici. Est-ce que... Oh non, si c'était lui... Il n'y aurait pas assez de sang dans ses veines pour laver son insolence. Dis-moi la vérité, Juliette, est-ce que Chalin est venu te voir? Est-ce qu'il t'a encore poursuivi de ses viles propositions et de ses calomnies contre moi? Chalin, lui dis-je, est-ce qu'il est à Milan? Et j'éprouvais un sentiment d'effroi qui dut se peindre sur ma figure, car Léonie vit que j'ignorais l'arrivée du vicomte. « Si ce n'est pas lui, dit-il en se parlant à lui-même, qui peut être ce faiseur de visite qui reste 3 heures enfermé avec ma femme et qui la laisse évanouie. Le marquis ne m'a pas quitté de la journée. Ô ciel, m'écriai-je, mais tous vos odieux compagnons sont donc ici. Faites au nom du ciel qu'ils ne sachent pas où je demeure et que je ne les vois pas. » « Mais quel est donc l'homme que vous voyez et à qui vous ne refusez pas l'entrée de votre chambre ?» dit Léonie, qui devenait de plus en plus pensif et pâle. « Juliette, répondez-moi, je le veux, entendez-vous » Je sentis combien ma position devenait affreuse. Je joignis mes mains en tremblant et j'invoquai le ciel en silence. « Vous ne répondez pas !» dit Léonie. « Pauvre femme, vous n'avez guère de présence d'esprit. Vous avez un amant, Juliette. Vous n'avez pas tort puisque j'ai une maîtresse. Je suis un sot de ne pouvoir le souffrir quand vous acceptez le partage de mon cœur et de mon lit. Mais il est certain que je ne puisse être aussi généreux. Allez, adieu !» Il prit son chapeau et mit ses gants avec une froideur convulsive, tira sa bourse, la posa sur la cheminée, Et sans m'adresser un mot de plus, sans jeter un regard sur moi, il sortit. Je l'entendis s'éloigner d'un pas égal et descendre l'escalier sans se presser. La surprise, la consternation et la peur m'avaient glacé le sang. Je crus que j'allais devenir folle. Je mis mon mouchoir dans ma bouche pour étouffer mes cris, et puis, succombant à la fatigue, je retombai dans un accablement stupide. Au milieu de la nuit, j'entendis du bruit dans la chambre. J'ouvris les yeux et je vis, sans comprendre ce que je voyais, Léonie qui se promenait avec agitation et le marquis assis à une table, évidant une bouteille d'eau-de-vie. Je ne fis pas un mouvement. Je n'eus pas l'idée de chercher à savoir ce qu'ils faisaient là. Mais peu à peu, leurs paroles, en frappant mes oreilles, arrivèrent jusqu'à mon intelligence et prirent un sens. « Mais je te dis que je l'ai vu et que j'en suis sûr !» disait le marquis. « Il est ici !»« Le chien maudit !» répondit Léonie en frappant du pied. « Que la terre s'ouvre et m'en débarrasse !»« Mais adieu !» reprit le marquis. « Oh, je suis de cet avis-là. Il vient jusque dans ma chambre tourmenter cette malheureuse femme !» Es-tu sûr, Léonie, qu'elle n'en soit pas fort aise ? Tais-toi, vipère ! N'essaie pas de me faire soupçonner cet infortuné. Il ne lui reste au monde que mon estime. » Et l'amour de Monsieur Henriette, reprit le marquis. Léonie serra les poings. Nous la débarrasserons de cet amour-là, s'écria-t-il, et nous en guérirons le flamand. Ah, ça, Léonette, tu ne vas pas faire de fautises. Et toi, dans la maison, ne vas pas faire d'infamie. Tu appellerais cela une infamie, toi ? Nous n'avons guère les mêmes idées. Tu conduis tranquillement au tombeau la Zagarolo pour hériter de ses biens et tu trouverais mauvais que je mis en terre un ennemi dont l'existence paralyse à jamais la nôtre. Il te semble tout simple, malgré la danse des médecins, de hâter par ta tendresse généreuse le terme des maux de ta chair phtisique. Mais va-t'en au diable. Si cet enragé veut vivre vite et mourir bientôt, pourquoi l'empêcherais-je? Elle est assez belle pour me trouver obéissant, et je ne l'aime pas assez pour lui résister. Quelle horreur, murmurai-je malgré moi, et je retombai sur mon oreiller. « Ta femme a parlé, je crois, » dit le marquis. « Elle rêve, » répondit Léonie, « elle a la fièvre. »« Es-tu sûr qu'elle ne nous écoute pas ? » ?»« Il faudrait d'abord qu'elle eût la force de nous entendre. »« Elle est bien malade aussi, la pauvre Juliette. »« Elle ne se plaint pas, elle souffre seule. » Elle n'a pas 20 femmes pour la servir. Elle ne paie pas de courtisans pour satisfaire ses fantaisies maladives. Elle meurt saintement et chastement, comme une victime expiatoire entre le ciel et moi. » Et Léonie s'assit sur la table et fondit en larmes. « Voilà l'effet de l'eau de vie, » dit tranquillement le marquis, en portant son verre à sa bouche. Je te l'avais prédit, cela te porte toujours au nerf. Laisse-moi, belle brute, s'écria Léonie en poussant la table qui faillit tomber sur le marquis. Laisse-moi pleurer. Tu ne sais pas ce que c'est que le remords, toi. Tu ne sais pas ce que c'est que l'amour. L'amour, dit le marquis d'un ton théâtral en contrefaisant Léonie. Le remords. Voilà des mots bien sonores et très dramatiques. Comme es-tu, Juliette, à l'hôpital ? Oui, ah, tu as raison, lui dit Léonie avec un désespoir sombre Parle-moi ainsi, je l'aime mieux. Moi, cela vous convient, je suis capable de tout. À l'hôpital, oui, elle était si belle, si éblouissante. Je suis venu et voilà où je la conduis. Oh, je m'arracherai les cheveux. Allons, dit le marquis après un silence. As-tu fait assez de sentiments aujourd'hui? Tu Dieu, la crise a été longue. Raisonnons à présent. Ce n'est pas sérieusement que tu veux te battre avec Henriette. Très sérieusement, répondit Léonie. Tu parles bien sérieusement de l'assassiner. Ah, c'est très différent. Oh, c'est absolument la même chose. Il ne connaît l'usage d'aucune arme et je suis de première force pour toutes. Excepté pour le stylet, reprit le marquis, ou pour le pistolet à bout portant. D'ailleurs, tu ne tues que les femmes. Je tuerai au moins cet homme-là, répondit Léonie. Et tu crois qu'il consentira à se battre avec toi? Il acceptera, il est brave. Mais il n'est pas fou, il commencera par nous faire arrêter comme deux voleurs. Il commencera par me rendre raison. Je lui forcerai bien. Je lui donnerai un soufflet en plein spectacle. Mais il te le rendra en t'appelant faussaire, escroc, fileur de cartes. Il faudra qu'il le prouve. Il n'est pas connu ici, tandis que nous y sommes établis d'une manière brillante. Je le traiterai de lunatique et de visionnaire. Et quand je l'aurai tué, tout le monde pensera que j'avais raison. Mais tu es fou, mon cher, répondit le marquis. Henriette est recommandée aux négociants les plus riches de l'Italie. Sa famille est bien connue et bien famée dans le commerce. Lui-même a sans doute des amis dans la ville, ou au moins des connaissances, auprès de qui son témoignage aura du poids. Il se battra demain soir, je suppose. Eh bien, la journée lui aura suffi pour déclarer à 20 personnes qu'il se bat contre toi parce qu'il t'a vu tricher et que tu trouves mauvais qu'il ait voulu t'en empêcher. Eh bien, il le dira, on le croira, mais je le tuerai. Mais la Zagarallo te chassera et déchira son testament. Tous les nobles te fermeront leurs portes, et la police te priera d'aller faire l'agréable sur un autre territoire. J'irai ailleurs. Le reste de la terre m'appartiendra quand je me serai délivré de cet homme. Oui, mais de son sang sortira une jolie petite pépinière d'accusateur. Au lieu de M. Henriette, tu auras toute la ville de Milan à ta poursuite. Ciel, comment faire? Dit Léonie avec angoisse. Lui donner un rendez-vous de la part de ta femme et lui calmer le sang avec un bon couteau de chasse. Donne-moi ce bout de papier qui est là-bas, je vais lui écrire. Léonie, sans l'écouter, ouvrit une fenêtre et tomba dans la rêverie, tandis que le marquis écrivait. Quand il eut fini, il l'appela. Écoute, Léonie, et vois si je m'entends à écrire un billet doux. Mon ami, je ne puis plus vous recevoir chez moi. Léonie sait tout et me menace des plus horribles traitements. Emmenez-moi ou je suis perdu. Conduisez-moi à ma mère ou jetez-moi dans un couvent. Faites de moi ce qu'il vous plaira, mais arrachez-moi à l'affreuse situation où je suis. Trouvez-vous demain devant le portail de la cathédrale à 1 heure du matin. Nous concerterons notre départ. Il me sera facile d'aller vous trouver. Léonie passe toutes les nuits chez la Zagarolo. Ne soyez pas étonné de cette écriture bizarre et presque illisible. Léonie, dans un accès de colère, m'a presque démis la main droite. Adieu. Juliette Ruiter. Il me semble que cette lettre est prudemment conçue, ajouta le marquis, et peut sembler vraisemblable au flamand, quel que soit le degré de son intimité avec ta femme. Les paroles que tantôt dans son délire elle croyait lui adresser nous donnent la certitude qu'il lui a offert de la conduire dans son pays. L'écriture est informe, et qu'il connaît sous l'on celle de Juliette. Voyons, dit Léonie d'un air attentif, en se penchant sur la table. Sa figure avait une expression effrayante de doute et de persuasion. Je n'en vis pas davantage. Mon cerveau était épuisé, mes idées se confondirent. Je retombais dans une sorte de léthargie.